Nous sommes depuis 2 semaines déjà sur une série qui s'appelle « C'est plus ». C'est plus que seulement savoir, c'est de le vivre. La vie chrétienne, c'est plus que simplement connaître Christ comme sauveur. C'est plus que ça. C'est de dire, il y a une vie à vivre. Une vie à vivre. On a toujours un petit texte. La vie en Christ, c'est plus que le connaître comme sauveur. C'est de vivre chaque jour en reconnaissance, en comptant sur sa grâce et son aide pour me transformer dans un témoin vivant de sa vie en moi. Donc ça, c'est un peu résumer cela dans tout. Ça, c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. C'est tous les jours quelque chose de plus. Quelque chose de plus que Dieu va vouloir nous encourager par sa parole. Quand on voyait la première semaine, il parlait que la parole de vie, la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus-même, quand il était sur terre, il a dit, « Me voilà, l'Esprit Saint que je vais vous laisser, il va vous dire toutes les choses, il va vous accompagner à croire sur les choses que je dis, il va vous apprendre la vérité. » Le verset clé de cette série, c'est Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec le Christ, c'est mon passé. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré et lui-même pour moi. Et si je vis, je le vis et dans la chair, dans la foi au Fils de Dieu. » Donc, c'est plus moi qui vis. On vient de chanter, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Pourquoi ? Pourquoi enfant de Dieu ? Parce que Dieu nous a donné une nouvelle identité. Quand on est venu, quand on a cru en lui, quand il est venu et par son esprit nous illuminer, nous donner sa vie, on est devenu enfant de Dieu. Et là, Jean, et l'apôtre Jean, dans sa première lettre à l'église, on croit que c'était l'église d'Éphèse qui l'écrivait, et il a déjà dit, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils du Père, de Dieu le Père. Vous êtes aussi témoin comme moi de ce que Dieu a fait à travers Jésus. Et on arrive aujourd'hui à un point intéressant où il va dire, nous sommes avertis. Il y a des choses qui vont se passer même pendant qu'on essaie de vivre c'est plus dans notre vie. Pourquoi? Parce que la vie, comme on dit souvent, ce n'est pas toujours couleur de rose. Et souvent, je ne sais pas si vous le voyez, sous la route, et parfois on voit un panneau qui dit danger. Quelle est notre première réaction quand on voit un panneau qui dit danger? De notre tête, toujours, dans ma tête, il y a quelque chose qui dit attention, il y a quelque chose qui va venir. Donc qu'est-ce que je fais? Éventuellement, on met la radio pour voir s'il y a eu un accident, quelque chose comme ça. Donc on ralentit, normalement. Normalement. Pourquoi? Parce qu'après, on voit des plots, ça s'appelle comme ça, non, des plots, d'accord? Qui nous disent, ah, il y a quelque chose qui s'est passé jusqu'au moment qu'on arrive à ce moment-là. Donc, ils nous avertissent à l'avance pour ne pas arriver à faire partie de cet accident où on apporte ce qui s'est passé sur la route. Donc la parole de Dieu va nous avertir aussi, à l'avance. À l'avance. Souvenez-vous que cette lettre était écrite plus ou moins dans les années 85 après Jésus-Christ. Donc c'était une lettre assez avancée. Ça fait déjà plus de 2000 ans. Un peu plus de 2000 ans. Un peu moins pendant 2000 ans. Donc, et ces lettres nous étaient données pour nous avertir qu'il y a des dangers qui vont se passer. Mais aussi, pas simplement qu'il nous va avertir qu'il y a un danger, il va nous dire quelle est la solution à tout cela. Donc, lisons ensemble, si vous voulez bien, et 1 Jean, chapitre 2, verset 18 et 19. Pour l'instant, on va lire que deux versets. 1 Jean, chapitre 2, chapitre 18 et 19. Chapitre 2, verset 18 et 19. Voilà. Petits enfants, encore une fois, il commence à utiliser cette façon de faire très amoureuse pour nous parler. Ces petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous l'avez appris, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est là la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtre, car ils usent être de nôtre et ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Alors, Dieu prend soin de son Église. Dieu prend soin de nous avertir, de dire attention à ceux qui veulent venir à l'intérieur des bâtiments, des assemblées, pour commencer à répondre des doctrines, écoutez bien, démoniaques. Une des doctrines démoniaques, la doctrine de la tolérance. Ce n'est pas une doctrine, mais on peut le dire comme ça parce qu'ils font toute une sorte d'études sur la tolérance. Tolérance avec les gens et tolérance avec les gens homosexuels, tolérance avec cela, tolérance avec des autres choses. Et tout cela, on commence à quoi là? Accepter. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, parce qu'on n'a pas lu, on n'a pas étudié la parole de Dieu. Si on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on trouve la grâce de Dieu. Une des seules fois où c'est marqué que Dieu tolère quelque chose, qu'il dit qu'il est patient, mais pas tolérant avec tous, pour que tous viennent à quoi? À la repentance. Mais dans aucun lieu, Dieu dit qu'il est tolérant avec le péché. Attention. Je fais la différence. Le péché, la personne. Malheureusement, je ne peux pas décoller la personne du péché. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais je peux aimer la personne. Mais pas tolérer son péché. C'est pourquoi, je n'ai pas souci de le dire parce que cela, ça va en ligne de toute façon. N'importe quelle personne qui passe les portes de ce bâtiment, il va être aimé tel qu'il est. N'importe son péché. Mais on ne va pas tolérer qu'une personne vienne d'ici et dise « Non, il faut tolérer ce type de façon de vivre. » Parce que ce n'est pas clair dans la parole de Dieu. Mais il y a des églises qui le font, malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de personnes, des antichrists, il s'est marqué, et c'est intéressant, le premier verset, le 18, il nous parle qu'il y a un antichrist qui vient, oui, il n'est pas encore là. L'antichrist, c'est cette personne-là qui va être, on croit, possédée par Satan lui-même, qui va à détourner l'humanité entière. Il va faire semblant de donner la paix. D'accord? Vous pouvez lire ça dans le livre de Daniel, dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Ézéchiel et le livre de Jérémie. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament parlent de cet homme-là. Et il va proposer une certaine paix au monde, mais au moment, à la moitié de cette période qu'on appelle la tribulation, il va casser cette paix. Et ça va être la misère. Si aujourd'hui c'est la misère, ce temps-là va être encore pire. Encore pire. Parce que les forces démoniaques vont être déchaînées davantage. Si aujourd'hui c'est très compliqué avec les forces démoniaques, ces moments-là, ça va être compliqué. Merci Seigneur que non, on ne va pas être là. L'Église de Dieu ne va pas être là. Il y a quelqu'un qui vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists, qui sont en pluriel. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure ou le dernier temps. Déjà, de ce temps-là, Jean disait, attention, il y a des gens qui vont contre la doctrine de Christ, qui vont contre ce que Christ dit. Alors mes amis, aujourd'hui avec la technologie, et les réseaux sociaux et tout cela, on a commencé à emporter partout les fausses doctrines. Et ce que je veux dire aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de respect, parce qu'il y a des gens qui disent parler de la part de Dieu, mais il n'y a pas d'un filtre par la parole de Dieu. Le filtre, ce sont les émotions. Le filtre, ce sont les êtres charismatiques. Il y a, je peux vous dire, il y a, on était assis dans des églises aux États-Unis. Et quand on s'assoit, on attend quelque chose de « waouh » qui va « boum ». Mais c'était un message, dans une église où on était, c'était un message de psychologique, pardon, je vais dire comme ça, très psychologiquement correct, pour vivre en famille, parce qu'elle parlait des relations. Mais la parole de Dieu était à côté. C'était centré sur comment aider dans nos relations, que c'est bien, mais la parole de Dieu et Christ n'étaient pas complètement le centre. Donc, on commence à affaiblir la vérité biblique. Alors, je vais être sincère avec vous. Je vais nommer ce matin certains pour les nommer. D'accord? Et cela va aller en ligne. Et si ça vous choque, je suis désolé. D'accord? Alors, il y a certains prédicateurs comme Joyce Meyer. C'est une femme qui est très charismatique. Mais que quand on commence à lire, à entendre, il y a certaines choses que dit, waouh, ce qu'elle dit, cette ligne-là, cette phrase-là, elle est superbe. Je peux pas dire le contraire. Mais quand on commence à creuser ce qu'elle croit de la parole de Dieu, elle nie que la parole de Dieu est infaillible. Elle le nie. Sur lui, ça va bien. Joel Osteen, c'est un autre grand prédicateur. Son bâtiment est rempli, 10 000, 30 000 personnes. C'est quoi? La parole de Dieu, il a dit, noir sur blanc, Dieu n'est pas le seul chemin. Il y a des autres, certains présentateurs de top chrétiens. C'est un présentateur de EMCITV au Canada. Pourquoi je dis ça? Je le dis avec beaucoup de crainte du Seigneur. Parce que j'ai entendu des messages. J'ai pris le temps de le faire. Et même, une personne m'a envoyé et même des pasteurs ici, en France, des églises qui sont énormes. Et quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Et ces pasteurs-là, c'est le salut se perd. On va le voir tout à l'heure, que c'est pas possible. Donc, si tout cela, les gens qui sont sont assoiffés de connaître Christ, on commence à voir de quoi? Des autres pistes dans notre propre bâtiment. L'église elle-même commence à subir les attaques démoniaques dès l'intérieur. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. La lumière, la parole de Dieu, le fait d'être solide dans leurs enseignements bibliques fait que ce type de personnes s'en aillent. On a eu dans cette assemblée des gens comme ça. Mais Dieu les a enlevés. Mais il faut être ferme. Alors si vous ne croyez pas comme ça, ce n'est pas un problème pour nous. Il y avait une personne qui me disait, Joël, il faut, parce que cette personne-là croyait, parce qu'il avait fait un cheminement avec les juifs, avec les juifs messianiques, mais un peu extrémistes. Il dit, Joël, la seule façon, écoutez bien, la seule façon de comprendre la parole de l'Ancien Testament, c'est qu'il faut prendre la seule façon de comprendre la Bible, c'est de prendre la Bible traduite du grec au juif, en hébreu, et après en français. C'est quoi la peine? Pourquoi faire double? C'est déjà dans le grec au français. Pourquoi faire triple, pardon? Mais son but c'était de me convaincre qu'il fallait qu'on revienne au fait de l'éternel. Je ne veux pas m'attarder là parce que c'est un sujet assez vaste. Mais si on commence à discuter sur les détails, la seule chose qu'ils veulent, c'est comme les Galates. on l'appelle des judaïsants. C'est revenir à des choses qui étaient déjà, qui sont finies, que c'était pour un peuple, pour le peuple juif, qui nous laisse un enseignement, oui. Mais la Bible me dit, l'apôtre Paul me dit, il faut que personne, la Bible dit, que personne ne vous juge à cause de ça. Mais mes amis, il faut quoi? Étudier la parole de Dieu. Pour pouvoir les démasquer, il faut la parole de Dieu. Mais en plus, c'est pas simplement, pardon, j'avais oublié de le montrer, on parle d'une infiltration dans les églises. C'est là le danger. Nous sommes avertis qu'il y aurait une infiltration et qu'il y a une infiltration. La deuxième chose, c'est que la vérité est non négociable. Si c'est mal écrit, après vous me dites. La vérité est non négociable. Et je suis en train d'étudier l'histoire de la pensée chrétienne. De comment aujourd'hui on peut arriver à parler de la Trinité et comment tout cela est arrivé. Waouh, il y a beaucoup de sang qui a coulé pour pouvoir expliquer quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un. Quelqu'un s'est assis à écrire, à réfléchir, à prier et à donner une explication. Un de ces gens s'appelle Michel Sellos, un penseur du 14e siècle. Il disait: la doctrine chrétienne et l'étude des Écritures ont toujours été le tribunal auquel toute opinion devait être soumise. Plus clair que cela. Et la vérité est non négociable. Pourquoi? On va lire de verset 20 jusqu'à verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. L'onction, on parle de l'Esprit Saint. D'accord? Ce n'est pas quelque chose avec de l'huile, c'est simplement parler de l'Esprit de Dieu. La connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, grâce à l'onction, grâce à l'Esprit Saint, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeure en vous, notre vérité, et que vous n'avez pas besoin que vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'il vous a donnés. Quelle onction on parle de l'Esprit de Dieu. Il nous fait comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses que l'Esprit de Dieu, c'est marqué deux fois qu'on n'a pas besoin qu'on soit enseigné. On est enseigné par rapport à la vérité. On a besoin d'apprendre la parole de Dieu, d'expliquer. Et Jean ne dit pas qu'il ne faut pas étudier la Bible, attention. Il y a des gens qui prennent ces versets de façon littérale. L'Esprit Saint va me parler. Est-ce que je suis contre? Est-ce que ça c'est une vérité? Oui, l'Esprit Saint peut parler. Mais quand on connaît la parole de Dieu, quand on comprend l'histoire de la parole de Dieu, le pourquoi, le comment, comme on dit en français, l'Esprit Saint va prendre ce que je sais, ce que j'ai compris, il va transformer ma vie. Et la première façon qu'il va me transformer, c'est quoi? C'est que le salut ne se perd pas. Écoutez bien ce qu'il dit. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est en parlant de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est quoi? C'est une promesse. Nous sommes des êtres humains et nous sommes faillibles. Alors, si Dieu dit, il nous promet la vie éternelle, quelqu'un peut enlever, quelqu'un peut lui dire, écoute, attention, parce que j'ai péché, tu tiens plus ta promesse. On parle à qui? À Christ. Dieu ne peut pas faire une promesse et revenir en arrière de sa promesse. Une fois qu'il a parlé, il va accomplir sa promesse. Donc s'il a promis que nous avons la vie éternelle, ça veut dire quoi? Quand nous venons à lui, l'Esprit Saint nous illumine de telle façon pour nous faire comprendre la vérité, l'Esprit de Dieu vient, son onction vient habiter en nous. En nous. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, lui demeure en vous. Bien habiter, faire sa place en nous. Donc, si le salut, c'est déjà une promesse, et la présence de l'Esprit de Dieu, c'est une vérité, on a qui en nous? Parce que Jésus dit, mon Père et moi, on est un. Donc on a le Père, le Fils, l'Esprit de Dieu. En nous. C'est super. Et grâce à sa présence dans notre vie, on peut comprendre la vérité. On peut, l'Esprit Saint va nous dire, attention à ce que cette personne est en train de dire. Est-ce que cette vérité qui parle de la parole de Dieu, est-ce que cette personne qui parle de la parole de Dieu n'est en train de prendre des versets hors contexte pour créer sa doctrine, pour créer un prétexte pour que les gens vivent dans la peur? Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. C'est un verset biblique. Il ne le dit pas de cette façon-là. Il le dit de tous ceux qui sont, à tous ceux qui sont crus, il est donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Il y a des vérités non négociables. Le salut est promis par Dieu. On a la présence de l'Esprit de Dieu de façon continuelle. Il y a quelque chose qui va venir. Après, on va le parler d'une façon. Dans un moment, on va le parler. Mais il faut croire. Il faut le croire. C'est non négociable. Pourquoi je dis ça? Vous vous souvenez quand Jésus, il était sur terre, encore, il est parti de l'autre côté à la région de Gadara. Et en sortant de son bateau, il voit un ou deux, ça dépend quel évangéliste le dit, deux personnes possédées par des démons. Et il parle avec une de ces personnes, Jésus parle. Mais avant de parler, les deux sont venus, la Bible dit, noir sur blanc, ils sont venus en courant, ils sont mis à quoi? À genoux. Pourquoi à genoux? Parce qu'ils reconnaissaient les démons qui étaient dans la personne, ils reconnaissaient qui était là. Alors, et automatiquement, les démons disent, qui es-tu? Et les démons disent, qu'est-ce que tu veux avec nous? Jésus, Fils de Dieu, le Fils de Dieu très haut. Automatiquement, il reconnaît sa majesté. En Jacques, le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, Jacques va parler de que l'œuvre et que les choses sont faites en tant que chrétien montrent ce que vous croyez. Mais il arrive à un point où je peux dire tout ce que je veux avec ma bouche, mais va pas montrer ce que je crois. Mais il dit, dans un sens, il va dire si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je me pose la question, combien je tremble? Pas de peur, mais à cause de sa majesté. Combien je viens la semaine quand c'est difficile, il y a quelque chose qui va te chagriner dans ta tête pendant toute la semaine, comme si Seigneur, j'ai besoin de ta paix, de ta vérité, qui vienne me donner ta paix. Combien de fois je dis Seigneur, il a des vérités, ta vérité, tes promesses sont non négociables pour moi. Pour Jean, c'était que ces gens-là étaient en train de croire que que Jésus n'était pas finalement divin en Dieu. Donc il est acquis pour cela. Mais pour nous aujourd'hui, quelle est la vérité non négociable que tu es en train de discuter avec tes parents, avec ta famille, avec tes collègues de travail? Quelle est la vérité que Dieu veut montrer dans ta vie? Des choses non négociables. Mais évidemment, il nous avertit qu'il aura une implication, qu'il y a des choses qui sont non négociables quand il vient par rapport à la doctrine. Il nous fait une invitation. Une invitation. Versets 28 et 29 du chapitre 2 de Jean. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez quiconque pratique la justice est né de lui. Quelle est cette invitation? C'est une instruction au lecteur de rester en communion avec Christ sans aucun obstacle qui l'empêche. Pourquoi une invitation? Parce que il y a une vérité. Christ viendra chercher son Église. Et avant de les noces de l'agneau, comme on parle, à un banquet au ciel, il y a l'appel à un tribunal de Christ. Et ce tribunal, ce n'est pas pour nous, pour dire, ok, tu vois, tu n'as pas fait beaucoup de choses, donc tu vas le faire. Non. Tout le monde qui est présent dans ce tribunal, il est déjà là. Il ne va pas partir nulle part. Il reste là. La vie éternelle est déjà acquise en Christ. Pas pour nous, en Christ. Mais comme dans la vie, Dieu nous a laissé sa vie, son esprit, pour qu'on puisse vivre pour lui. Et nos actions, nos actes comptent. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, il parle de que nos œuvres, que nous faisons ici, sont comme des pierres précieuses ou des choses qui se brûlent avec le feu. D'accord? Donc, on commence à, entre guillemets, à amasser un trésor pour qui? Ou des courants pour qui? Pour Christ, pas pour nous. Donc, toutes les choses qu'on a fait dans la terre ont un caractère éternel. Seulement, il faut comprendre que dans la Bible, il y a deux choses qui sont éternelles. La parole de Dieu et les âmes des hommes. L'argent, il s'envole. Une maison avec un tornade, il s'en va. Avec un feu, il roule. La vie, on ne l'a pas acquis parce que n'importe en quel moment. Mais il y a deux choses qui sont éternelles, les âmes des hommes et la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ces deux choses? Alors, quand on arrive au ciel, la Bible ne le dit pas. D'accord? Ne le dit pas. Mais dans un moment, la Bible, oui, nous parle de couronne. Si, quand je me présente devant Dieu, la Bible dit que toutes mes œuvres vont être passées par le feu. Apocalypse chapitre 1, mais parle que l'ancien des jours, on parle de Christ, la Bible dit c'est comme, c'est sûr, c'est comme des flammes de feu. Pas qu'ils sont de feu, mais comme des flammes de feu. Ça veut dire quoi? Qui est à la seule vue de notre vie, nous on va savoir si on va être confus. Dans des autres Bibles, dans d'autres versions, on parle d'avoir des hontes. Pourquoi? Parce que pendant qu'il nous a tout donné, nous ne savons pas tout donné ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout donner? Ça veut dire c'est plus que simplement vivre, simplement la vie. Que simplement et le salut. C'est de vivre tous les jours pour lui. C'est de vivre en communion. Celui qui est resté dans le Christ, en Christ, en pleine communion avec lui, aura pleine confiance, car il sait que le juste juge remplira l'engagement de ses promesses en récompensant les vainqueurs. Celui qui apparaît devant le Christ avec les mains vides, il devra avoir honte, ou, comme le texte le dit, avoir honte à cause de son apathie et de son manque de réponse à l'amour de Dieu. Sinon, graphiquement parlant, ils devront baisser la tête de honte. On vient voir le roi des rois. Et quand on vient, normalement, bah, selon les coutumes médiévales, parfois il fallait venir avec un cadeau pour donner. Écoute, est-ce qu'il y a des gens qui, malheureusement, auront rien à présenter? Oui.
Oui.
Mais moi, Joël, vous, nous, qu'est-ce qu'on va présenter à Christ? Qu'est-ce qu'on va présenter à Christ? On ne peut pas s'attarder ici avec une expliquer les différentes couronnes, mais au moins, il y a 5 couronnes différentes. Couronne de salut, couronne d'être persévérant. Si nous savons qu'il est juste, nous devons aussi vivre dans cette justice. Les vrais croyants ne sont pas reconnus parce qu'ils prétendent l'être, mais par le monde, par le mode de vie qu'ils pratiquent. L'appel des gens à la sainteté est manifesté dans cet épître. La sainteté n'est pas une option de vie, mais la seule manière de vivre la vie chrétienne. Je le redis. La sainteté n'est pas une option de vie, mais la seule manière de vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas si tu veux. Pierre nous dit, soyez purs car il est pur. Soyez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Soyez. Et soyez, c'est une façon continuelle de parler. Ce n'est pas simplement aujourd'hui ou hier ou demain. C'est un continuum. Il ne faut pas s'arrêter. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis de quoi? Ce qui se passe dans ce monde et que la vérité va toujours être première. Car c'est Dieu qui la tienne entre ses mains. Et il nous l'a partagé grâce à Christ, à son Fils. Mais il y aura des gens qui vont infiltrer. Est-ce que nous sommes prêts à ne pas fléchir pour cette vérité non négociable? Est-ce que nous serons prêts à être invités dans ce sens-là, à vivre de telle façon que quand on se présente devant Christ, quand on se présente devant Christ, on aura des choses à lui donner. Je termine par ceci. Parfois, on croit qu'il faut aller de l'autre côté de la Manche pour être quelqu'un, pour Christ. Il faut être un grand missionnaire, un grand pasteur, un grand écrivain, un grand orateur. Si vous cherchez de la parole de Dieu, ce n'est pas marqué cela. Ce n'est pas marqué. Pourquoi? Parce que le chemin de sanctification, ce n'est pas ce que je fais moi-même, c'est ce que Dieu fait en me transformant jour après jour. Ça s'appelle la sanctification. Et c'est tous les jours. Avec tous les choses, avec toutes mes fautes, Dieu m'aime tel que je suis. Et Dieu m'aime tel que je suis parce qu'il veut continuer à me rendre semblable à lui. On va prier ensemble, on va chanter un chant qui s'appelle « Je me livre à toi ».